Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Maxime Dupuis, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022.
Alors, j'oscille entre le c'est exceptionnel et on a l'habitude. Mais on a l'habitude et ça reste exceptionnel parce qu'encore une fois, deux demi-finales de Coupe du Monde de suite. C'était arrivé qu'une fois dans l'histoire du football français. Imagine combien il y a de pays qui rêveraient d'être à la place des Bleus. Sur ces 24 dernières années depuis 98, c'est du délire absolu.
J'en ai vécu des choses avec Maxime, des bonnes et des moins bonnes, mais je crois que les 5 derniers... Le temps additionnel, t'as pas dû écrire beaucoup de lignes.
Ce soir ?
Ouais, ce soir. Et je t'ai vu quand même excité comme Jaja. Je t'ai vu tendu et je t'ai vu jubilé. Et Maxime est quelqu'un, on va le dire, on va délivrer des secrets. Maxime est quelqu'un de tempéré, Maxime est plutôt quelqu'un de mesuré. Mais ce soir, il a tombé le masque.
C'est quand j'ai vu le gamin qui pleurait.
Ça t'a énervé, l'anglais keeper.
Mon sang n'a fait qu'un tour.
Ça t'a énervé, l'anglais keeper. Ça t'a énervé.
Les larmes de la 83e minute, je comprends pas.
Ah non, mais elle fait plaisir, cette victoire. Elle est folle, elle est dingue. Elle est arrachée avec les dents. Elle est miraculeuse. Elle est. Bah voilà.
Didier Deschamps a dit que c'est une victoire avec les tripes. Voilà. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est pas un terme qu'il utilise très souvent. On est souvent dans le contrôle aussi, Didier Deschamps, d'une équipe qui était pendant longtemps très solide, qui l'est moins, mais qui garde cet état d'esprit, ce petit quelque chose en plus qui fait qu'elle est encore là.
Alors, trois sujets pour débriefer ce France-Angleterre qui restera quand même, je pense, pendant longtemps dans l'histoire des Bleus. Le premier sujet, c'est Olivier Giroud qui a dit que ça lui rappelait un peu la Belgique 2018. Et on va se pencher sur le scénario de ce match, sur aussi ce qui a fait basculer cette rencontre. Ce sera notre premier sujet, Maxime. Ensuite, on parlera du plan des Anglais.
Le plan des Anglais, alors on en a parlé pendant une semaine, et nous les premiers, parce que c'était évidemment le défi qu'on avait envie de voir. C'était évidemment Kyle Walker versus Kylian Mbappé. Est-ce que les Anglais ont eu raison de faire une fixette sur Mbappé? Il n'a pas fait un grand match ce soir, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils avaient tort.
Exactement. Et on finira avec le tableau final. Argentine, Croatie d'un côté, France, Maroc. Ça, on ne l'avait pas vu. On l'avait pas vu venir, hein. On va être tout à fait honnête. De l'autre côté, et cette question. Cette question qu'on se pose tous aujourd'hui. L'équipe de France est-elle aujourd'hui la grande favorite du tournoi, Maxime?
Voilà, c'est déjà bien de pouvoir poser cette question-là, pardon. Ça veut dire qu'on est en demi-finale, et on est en demi-finale grâce à une victoire face à l'Angleterre, victoire 2-1, arrachée avec les dents, avec les tripes, comme a dit Didier Deschamps. Et Olivier Giroud lui a parlé d'une équipe qui lui faisait penser à 2018. Est-ce que, Martin, tu as vu l'équipe de France de 2018? Et on va dire, pour lui, c'est sûrement la référence Belgique, hein. 2018.
Non, mais il a même carrément dit la Belgique 2018.
Ah, il l'a dit, pardon. Ouais.
Non. Non, ça ne me fait pas penser à 2018 parce que c'est nettement moins maîtrisé qu'en 2018. Souvenez-vous de France-Belgique, hormis les 20 premières minutes où vraiment la France souffre avec Hazard face à Pavard notamment, après, c'est maîtrisé, c'est clinique et les Bleus, même avec Tolisso, ont plein de balles de match. Là, il y a eu un scénario assez incroyable. Alors, pour le coup, ouverture du score. Pendant les 20-25 premières minutes, la France est plutôt bien installée dans son match. Et après, ça débloque complètement. Et je dirais qu'entre la 25e et la 75e, ce qui fait quand même 50 bonnes minutes, la France est largement dominée. Elle s'en sort par des miracles. Il y a cette petite faute d'Upamecano à 2 cm de la surface de réparation. Il y a évidemment le pénalty que Kane envoie dans les tribunes. Il y a un immense match encore d'Hugo Lloris, chahuté par la presse anglaise qui a eu le don de m'énerver et qui te sort une réponse de patron. Donc je pense que c'est nettement moins maîtrisé qu'en 2018, mais au final, peu importe, le résultat est le même. La différence avec 2018 aussi, c'est que cette équipe de France, je la trouve même presque encore plus clinique, alors qu'elle l'était déjà en 2018. Hein. Mais ouais. Là, je la trouve. Giroud, c'est le meilleur exemple. Deux occasions, un but. Franchement, les Bleus, ils ont quoi? Ils ont deux occasions et demie dans ce match. Ils en mettent deux. Franchement, chapeau. Après, oui, ils tiennent au mental. Mais je pense n'avoir jamais vu un aussi gros miracle en tournoi pour l'équipe de France. Depuis quand d'ailleurs? Depuis sous Deschamps, j'ai jamais vu un miracle pareil pour l'équipe de France en tournoi.
Didier Deschamps, c'est rarement les miracles. Ce match-là, je sais pas si j'aurais envie de le revoir. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas maîtrisé. Et en tout cas, je le montrerai pas forcément dans une école de foot au niveau de la maîtrise défensive. Parce que France-Belgique, c'est la maestria. Il y a le France-Allemagne de 2021, mais vu la suite de l'histoire, on finit par l'oublier alors que c'était assez immense. Et à la rigueur, on peut se dire que c'était un peu moins fort potentiellement que la Belgique. Pourquoi ? Parce que c'était l'Allemagne en face et on a vu que l'Allemagne n'était pas dans la meilleure période de son histoire. M'en déplaise. France-Belgique, c'est vraiment de la maîtrise de A à Z, à part, comme tu le dis, dès le début. Mais quand même, après, c'est quand même une équipe qui fait quasiment ce qu'elle veut de la Belgique et qui est d'une discipline militaire complètement folle. C'est l'équipe de France face à l'Angleterre. Et de toute façon, c'est un peu la suite de son tournoi, parce qu'on l'a dit dès le début, remettre Griezmann dans cette équipe à cet endroit-là, c'est une manière de l'équilibrer, mais c'est un équilibre qui est souvent précaire, mais qui marche bien, parce que c'est une équipe qui a des tripes, qui a de l'expérience et qui a un don de soi qui est formidable, et Griezmann est encore formidable. Cette équipe n'aura jamais la force défensive de l'autre. Voilà. Elle a juste quelque chose en plus, c'est-à-dire de l'expérience, elle a plein d'outils dans sa boîte, elle est capable de faire plein de choses et il y a des moments elle sort un outil ou un autre et ça marche comme ça. Et comme tu l'as dit, il y a quand même un gros cœur de match où quand même ça tangue sévèrement.
T'es bouffé
et ça peut faire très mal, mais elle réussit à s'en sortir. Moi je pense que l'Angleterre perd aussi ce match. Pour le coup, je pense que avec un peu plus d'audace.
Est-ce que la France gagne plus que l'Angleterre ne le perd?
Moi je pense que l'Angleterre le perd plus, même si c'est remarquable, encore une fois, c'est pas non plus parce que il y a Saka qui bouge les choses, mais les autres, on a l'impression que ils ne sont pas survoltés. À un moment, on a envie de leur dire aux Anglais, mais allez-y, c'est votre destin d'y aller, allez-y, c'est aussi là-dessus.
Oui, mettez-leur la tête sous l'eau.
Et le France-Argentine de 2018, c'est une bascule d'un destin. Vous êtes mené de 1, c'est pas forcément juste comme les Anglais ce soir, et les Français de 2018, ils vont le chercher. Ben, les Anglais n'ont pas su le faire, mais c'est aussi grâce, encore une fois, au travail des Français. Et pour conclure là-dessus, le plus beau symbole, c'est évidemment que Griezmann donne le but à Giroud, parce que c'est une combinaison d'antan, c'est l'Euro 2016. Et ben, ça marche toujours, c'est-à-dire que Mbappé, dans un match, dans un soir moins, et ben, y a les autres qui sont là. Cette équipe a des ressources partout, à défaut d'être aussi solide qu'avant.
Bah, si on est honnête, si on sort trois joueurs de cette équipe-là, c'est Lloris, c'est Griezmann et c'est Giroud. C'est la grande colonne vertébrale historique de Didier Deschamps. C'est cette colonne vertébrale-là qui amène ces Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde. Et je trouve ça assez, assez incroyable. Je réfléchissais pendant que tu parlais, parce que je t'écoute assez peu. Non, mais je réfléchissais
c'est
sur...
C'est pareil, moi, c'est pareil. Je me nourris de toi.
À quel match ça me fait penser? Est-ce qu'il voilà, y a des matchs sous Didier Deschamps en tournoi qui rappellent ce France-Angleterre? Je pense que celui qui s'en rapproche le plus, la folie en moins, c'est quand même l'Allemagne-France, la demi-finale de l'Euro, parce que la France, c'est...
Ouais.
Dominée,
ouais, c'est vrai.
Elle est acculée et le point commun entre les deux, bah, c'est quand même un grand Griezmann et un grand Lloris. Alors Griezmann dans un rôle différent, Lloris évidemment dans le même rôle, on va pas lui demander de marquer des buts, mais voilà, si j'avais un parallèle à tracer avec voilà, un match de sous Didier Deschamps, je dirais l'Allemagne, mais je dirais qu'ils ont même, ils sont encore plus passés à deux doigts du gadin. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a qu'un but d'écart, parce que Kane rate un péno, alors qu'une fois qu'il y a 2-0 face à l'Allemagne, finalement, tu t'en sors plus facilement. Voilà, moi, j'ai rarement vu ça sous Didier Deschamps quand même. On n'en leur enlève pas leur mérite, mais quand tu dis que l'Angleterre l'a peut-être plus perdu que la France l'a gagné, je te rejoins aussi.
L'Angleterre l'a peut-être perdu aussi parce qu'elle s'est aussi beaucoup focalisée sur un homme pendant toute la semaine. Alors, leur plan était bon finalement, parce que Mbappé... pour le coup, n'a pas été bon. On a eu l'impression qu'il n'osait pas provoquer Walker. Il le fait une fois, la première fois qu'il le fait vraiment, 56e minute, ça marche. On voit Walker qui court à côté, qui essaye de le rattraper par le maillot. Et il y a un centre en retrait, je ne sais plus
pour
qui,
Dembélé.
Pour Dembélé. Mais ça ne donne pas but. Est-ce que pour toi, les Anglais n'en ont pas finalement trop fait avec Mbappé et oublié le reste ?
Eh ben, je dirais que non. Je dirais qu'ils ont bien fait. Et je dirais qu'ils ont fait ce qu'il fallait défensivement. Après, peut-être que l'erreur, c'était plus devant avec Foden, avec voilà. Mais je dirais que derrière, ils ont appliqué le plan qu'il fallait. Pourquoi ? Bah parce qu'on voit que Dembélé n'a pas fait un grand match, ouais. Finalement, qu'il n'en a pas profité plus que ça. Alors Giroud s'est servi de la seule munition. Il a eu deux munitions, mais avant la 75e, finalement, Giroud, ça ne fonctionne pas. Et Mbappé éteint, c'est quand même ce que je disais hier dans l'émission et je le maintiens. C'est 80% du pouvoir offensif de l'équipe de France qui est éteint. Bah, sauf que c'est les 20 autres % qui ont fait la différence. Ouais. Finalement, il a suffi de 20% à cette équipe de France. Mais Mbappé, on le voyait, à chaque fois, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Alors, sur l'action du premier but, quand même, c'est vrai qu'ils sont à 3 sur lui et du coup, que ça libère l'espace opposé et que tout ça fait que quand même Tchouaméni a un tout petit temps d'avance sur la défense. Donc, là, on peut se dire qu'il y a un petit déséquilibre. Mais franchement, si le risque de prendre Mbappé, c'est que Tchouaméni te mette un but de 30 mètres, petit filet, bah c'était un risque à prendre quand même. Donc je pense, moi, que l'Angleterre avait le bon plan dans cette approche-là, en tout cas vis-à-vis de Kylian Mbappé.
Et c'est un duel assez fascinant. Moi, je me suis amusé à les regarder beaucoup en première période. C'est assez rare de voir ça. On avait l'impression quasiment d'un marquage individuel de Walker sur Mbappé. C'est-à-dire qu'il le suivait. C'est quand même assez rare qu'un arrière latéral fasse ça. Déjà, le marquage individuel, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans le football moderne, mais là, sur un joueur de côté, c'était assez fascinant. Et on a eu longtemps l'impression, au moins avant cette 56e minute, que Mbappé craignait Walker, comme s'il savait, c'est ce que tu avais raconté dans ton article avant le match, que l'autre allait très vite et que, de toute façon, s'il poussait le ballon, il y avait quand même de fortes chances, parce que vous le savez aussi bien que moi, on court moins vite quand on n'a pas le ballon. Donc celui qui pousse le ballon est désavantagé.
Mais moi, je pense qu'il y a quand même un truc. Alors, Mbappé ne l'avouera jamais et personne ne l'avouera jamais, personne ne dira rien. Moi, je pense quand même qu'avec tout ce battage, on a beau dire qu'il est étanche à tout ça, je me demande s'il n'a pas été un peu chamboulé par tout cet avant-match, la confiance de Walker. Je me demande si Walker, il n'est pas à un moment rentré dans la tête de Mbappé parce qu'on n'a pas vu le Mbappé, au moins qu'il tente quelque chose. En fait, qu'il rate, pourquoi pas. Finalement, il a beaucoup raté aussi dans cette Coupe du Monde. Il a plus réussi que raté, mais là, il n'a même pas tenté. Pour moi, ça dit quand même quelque chose.
Après, pour faire le lien avec ce qu'on disait hier, moi, je parlais du milieu de terrain et je préconisais aux Anglais de rester en 4-3-3. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient solidifier ce côté droit. Et on a vu aussi des séquences où on avait, alors c'était soit Rice ou souvent Anderson, qui avaient deux mecs ou trois mecs autour de Mbappé. Donc, ils avaient, en fait, encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, les Anglais, ils le perdent ce match, vraiment. Parce que si c'est une équipe qui est sûre de son destin, qui a quelque chose en elle de ce surcroît d'abnégation, de force, elle doit aller le gagner ou au moins pas le perdre avant la prolongation. En plus, on voit que ça ne joue pas grand-chose puisque c'est quand même un pénalty qui est parti au-dessus d'Harry Kane. Donc, comme tu le dis, je pense qu'ils ont fait le bon choix. Et finalement, ils ont bloqué Mbappé et on ne peut pas reprocher grand-chose à Walker. Le problème, c'est ce qu'ils ont fait à côté sur des situations où, honnêtement, ils avaient... honnêtement, mieux à faire.
Moi, je pense qu'ils ont été rattrapés quelque part par le statut des deux équipes. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans l'approche du match, je pense qu'ils ont été bons. Mais après, ils n'ont pas su outrepasser leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même outsiders. Je pense qu'ils ont trop respecté cette équipe de France à l'image d'Mbappé. Mais Mbappé, je trouve que c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'ils l'ont vraiment respecté. Ça a fonctionné. Mais ils ont trop respecté cette équipe de France à un moment. Il aurait fallu, elle avait quand même 90% du corps sous l'eau. Il aurait fallu mettre la tête un moment sous l'eau. Et ils n'ont jamais appuyé les Anglais pour noyer cette équipe de France. Et au final, ils ont été punis parce que cette équipe de France est pleine de ressources, comme tu l'as très bien dit. Moi, je pense que ils peuvent se mordre les doigts là, méchamment.
Ouais. Et ce qui est fou, c'est que l'Angleterre, depuis, c'est assez dingue de penser ça, c'est que depuis sa victoire en Coupe du Monde en 1966 contre l'Allemagne de l'Ouest.
Mais ça compte ces choses-là.
Ah oui, n'a jamais surperformé en grand tournoi. Les plus grosses victoires de l'Angleterre en très grand tournoi, à partir de l'élimination directe, évidemment, à partir des huitièmes, ce sont un quart de finale à l'Euro 96 au tir au but contre l'Espagne, et encore l'Espagne à l'époque. C'est pas l'Espagne qui est devenue après l'Espagne des années 2000. Ou finalement, la victoire contre l'Allemagne en 2021 à l'Euro, avec une Allemagne qui est quand même, on va dire, moyenne en huitième de finale, et c'est à Wembley. Les fois où l'Angleterre a dû faire face à un adversaire qui était au-dessus d'elle sur le papier, voire dans les faits, elle s'est crachée. C'est une équipe qui ne surperforme pas et qui finalement est ramenée à sa condition habituelle d'équipe qui est très forte contre les petits et faible contre les forts.
Moi, je pense que c'est vraiment ce qui l'a rattrapé ce samedi. Vraiment, vraiment. Parce que enfin, moi, je l'ai trouvée plus forte que l'équipe de France.
Ah bah, oui,
j'ai trouvé plus forte que l'équipe de France. J'ai trouvé qu'elle était... voilà, dans les secteurs de jeu, je l'ai trouvée... elle était meilleure, tout simplement. Mais elle n'a... l'équipe de France a ce truc-là qui est né depuis très longtemps, qui est né, je dirais, sur l'aventure quasiment Euro 2016, Coupe du Monde 2018, où tu as, on parle souvent de ces trucs-là, on se dit peut-être que là, c'est des trucs de journalistes. Non, je pense que cette équipe, elle a des certitudes sur lesquelles elle s'appuie. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, Lloris, Griezmann, Giroud, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que ce soit eux qui fassent tourner ce match. Ces certitudes-là, ces joueurs-là qui ont connu la victoire avec leur sélection, je pense que c'est ce qu'il a manqué vraiment aux Anglais. Même si tu as un Harry Kane qui est démentiel, même si tu as un Saka qui est peut-être le meilleur joueur du match, mais je pense qu'il te manque cette référence-là.
Sur les quatre derniers tournois de l'équipe de France, allez, je vais rajouter 5 avec la Ligue des Nations. L'équipe de France a battu l'Allemagne, l'Uruguay, l'Argentine, l'Espagne et l'Angleterre.
Ah oui,
je parlais. Voilà. Ils ont battu 5 des 7 autres champions du monde. La preuve par l'absurde que cette équipe, elle, sait se hisser au niveau. Et c'est quand même assez délirant de penser qu'elle a ce tableau de chasse depuis 2016.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que par contre, en demi-finale, on n'aura pas un champion du monde. Alors, on n'aura même pas un demi-finaliste de champion, enfin une équipe qui est déjà allée en demi-finale. On n'aura même pas une équipe qui était déjà allée en quart de finale. On a une équipe qui sort comme ça, qui est l'énorme surprise, l'immense surprise, le Maroc. Et on va déjà se projeter donc sur ce tableau final. France-Maroc d'un côté, Croatie-Argentine de l'autre. Deux équipes à deux titres, deux étoiles. Deux équipes qui n'ont jamais gagné. Une qui dispute sa première demi-finale et qu'on attendait vraiment pas là, le Maroc. Maxime, ma question, elle est simple. Au regard des pédigrés, mais pas seulement, on regarde aussi de la trajectoire, on regarde des forces actuelles, on regarde la dynamique. Pour toi, est-ce que l'équipe de France est aujourd'hui la seule et unique favorite de cette Coupe du Monde?
Alors, on attend souvent d'une compétition, et il arrive que ce soit vrai, qu'une équipe monte en puissance et qu'elle connaisse un parcours, on va dire, linéaire jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire que premier tour moyen, et puis d'un seul coup en huitième, ça va mieux, et puis en quart, et puis en demi, etc. Or, c'est pas la norme, tout simplement. Et quiconque me dira ce soir que l'équipe de France a fait un pas en avant qualitatif dans son jeu, il aura bien du mal à me le prouver. En revanche, là où elle impose, encore une fois, ce statut qui, pour le coup, je vais le dire, est celui de favori, c'est cette force, encore une fois, cette force et ce côté implacable, finalement, parce qu'elle est implacable. On a l'impression, quelles que soient les situations, quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand il faut défendre ou quand il faut plus attaquer. Et c'est sûr que quand on regarde le tableau final, alors si on regarde, c'est même Didier Deschamps a dit, mais le Maroc, c'est plus une surprise. Alors évidemment, on regarde le tournoi,
oui,
c'est pas faux. Enfin, oui. C'est une équipe qui ne prend pas de but, qui vient de sortir le Portugal et l'Espagne, qui a eu la Croatie et la Belgique au premier tour.
Exactement.
C'est du délire. Donc à un moment, après, c'est sûr que au regard historique, c'est difficile parce que ça reste, quand on prend le recul, le Maroc en demi-finale, premier pays africain, c'est la surprise du siècle. Mais n'empêche que sur le tournoi, c'est pas forcément une surprise. Maintenant, j'aurais du mal à les mettre favoris face à la France. Et quand je regarde l'autre demi-finale, ouais, je pense que l'Argentine est un peu un ton en dessous aujourd'hui. Donc, je mettrais assez naturellement les Bleus favoris. Mais il n'y a pas, comme dirait l'autre, une ancienne époque, la ligne droite de Longchamp.
J'étais sûr qu'il allait dire la ligne droite de Longchamp. Il me sort à chaque fois la ligne droite de Longchamp. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, évidemment, que la France est au-dessus des autres. Mais pour un argument simple, elle est championne en titre et elle est en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'elle n'a plus perdu en Coupe du Monde depuis 2014, quand même. Depuis un quart de finale face à l'Allemagne. Donc,
y a la Tunisie. Enfin, tu peux tester.
Ah oui, c'est vrai.
En match qui compte.
T'as raison. Non, mais t'as raison. Tu fais bien de le dire. Mais bon, pour moi, la Tunisie,
on l'oublie.
C'est un match qui ne compte pas. Après, effectivement, sur le tournoi, ça fait quand même quelques jours qu'on se dit le Maroc, ça finira bien par s'arrêter.
Ouais. Aujourd'hui, moi, je pensais que ça me paraissait impossible.
Voilà.
À la fatigue. Mais...
sauf que les mecs, je rappelle juste qui ils ont mis en dehors du tournoi. Kevin De Bruyne Eden Hazard, Pedri, Gavi, la génération dorée espagnole. Le Portugal, qu'on avait sans doute à un moment pris comme les favoris quand ils venaient de désosser la Suisse, les Ronaldo, les Leao, les Joao Félix, les Pep, les... enfin voilà, ils les ont tous mis en dehors du tournoi sans encaisser le moindre but face aux plus grosses armadas offensives de ce tournoi. C'est absolument fou. Donc, se dire que cette demi-finale est déséquilibrée, j'irai pas jusque-là. Il faudrait faire très attention. En plus, il y a quelque chose qui anime cette équipe. Il y a aussi le parfum de, voilà, de l'épopée, c'est... de l'aventure, le truc complètement fou qui te lie un groupe. Mais il tombe face au champion du monde en titre. Il tombe, même s'il n'a pas fait un grand match aujourd'hui, face au meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Donc, voilà, pour moi, le rapport de force penche quand même en faveur de l'équipe de France. Et si je prends l'autre demi-finale, moi, ce sont deux équipes qui m'ont presque déçu en quart de finale, même si elles sont passées. Mais oui, non, mais je sais, je vais être sévère, mais on parle de la Croatie qui a piégé le Brésil, incroyable. Ils ont une occasion en 120 minutes. Ils la marquent, ok, mais ils ont une occasion en 120 minutes. Et quant à l'Argentine,
elle a failli surplumer.
C'est pas l'Argentine, c'est Messi en fait. Est-ce que Messi est favori face à la France? Moi, quand je vois l'équipe d'Argentine, voilà, j'ai pas envie de me relever la nuit. Donc, pour moi, la France, oui, est au-dessus. Est au-dessus, mais presque en deuxième, je mettrais le Maroc, tu vois, presque. Je sais, c'est audacieux, Maxime.
Et ce qui est sympa, si vous nous regardez en vidéo, vous voyez peut-être, si la vidéo est sur le site, d'ailleurs, c'est pas sûr, mais c'est pas grave, enfin, vous l'avez sûrement vu en vidéo, on a Mbappé et Hakimi, ça c'est exceptionnel aussi comme duel. C'est-à-dire qu'on a eu Walker, Mbappé, et là, ça va être le duel des copains. Ça, c'est aussi autre chose, ça va être très sympa à suivre.
Avec Hakimi qui fait une Coupe du Monde.
Ouais.
Incroyable.
Mais le Maroc, c'est, voilà, c'est fantastique, c'est, on attendait. Enfin, si on attendait une équipe africaine, c'était pas eux.
Non, c'était le Sénégal.
C'était le Sénégal. Ils l'ont fait, c'est exceptionnel. Et rendez-vous compte, enfin, de 1930 à 2022, on a attendu autant de temps et on l'a enfin, cette équipe africaine en demi-finale.
Moi, il y a quelque chose que je me suis dit à chaque fois sur le Maroc, c'est quand je les voyais célébrer, ils passent les groupes, je me dis, ils célèbrent beaucoup.
Ouais,
là.
Bah oui, mais...
Ils célèbrent beaucoup. Ils sortent l'Espagne, je me dis, ah là, quand même, ils célèbrent beaucoup. Ils passent le quart de finale, je me dis là quand même. Et puis première équipe africaine, t'as l'impression qu'ils sont quand même arrivés à quelque chose d'incroyable, d'historique. Et tu te dis, ah, quand même là, bon, ok, c'était presque leur but, tu vois, finir en demi-finale. Pour eux, ça, c'est tellement... Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'équipe d'Angleterre. Est-ce qu'à un moment, ils vont être rattrapés par ça? Est-ce que comme l'Angleterre qui a été rattrapée par... Je n'ai jamais gagné face à une nation majeure en tournoi final d'une Coupe du Monde depuis 1966. Est-ce que les Marocains ne vont pas être rattrapés par... On est la première équipe africaine en demi-finale d'une Coupe du Monde. On a créé notre exploit gigantesque. Derrière, c'est un continent qu'on n'a jamais exploré, les demi-finales, la finale. Est-ce qu'ils ne vont pas être attrapés par ça? Ça peut être une des clés aussi de cette demi-finale.
Ouais, alors là, c'est vraiment de la discussion de comptoir.
Bon, ça te ressemble.
Non, non, mais en fait, je pense que là, au niveau où ils sont, ils seront plus rattrapés par ça, pour moi, avant la finale. Parce que la finale, il y a tout le décorum, qui change.
Tu as la coupe qui est au milieu.
Il y a la coupe qui est au milieu. La vraie, parce que ce n'est pas celle qui est gonflée, qui fait 15 mètres de haut. Là. On rentre sur le stade. Elle est là entre les deux équipes. Même l'avant-match change, les conférences de presse. Ce n'est plus les mêmes décors derrière. Donc là, je pense que c'est vraiment là que ça change. Là, pour moi, c'est entre guillemets un autre match de plus face à une autre grande équipe.
Sauf qu'ils ont le champion du monde face à
eux. Sauf qu'ils ont le champion du monde face à eux.
Et je pense que moi, on en reparlera et voilà. Je pense qu'il y a aujourd'hui une aura autour de cette équipe de France qui l'avait un peu perdue avec les forfaits d'Mbappé, Pogba, Kanté ne sont pas là.
Oui.
Forcément, tout s'était un peu effrité et on se disait, on a l'impression d'une équipe pas comme une autre, belle équipe, mais qui a un peu perdu ses galons.
Ouais.
Et là, je trouve que ce match face à l'Angleterre, elle récupère ses galons-là. Et les Marocains vont peut-être l'aborder différemment cette
demi-finale. C'est toujours un peu le même principe. Quand vous arrivez avant la Coupe du Monde, vous parlez avec des étrangers du statut de l'équipe de France. Nous, on est en France, alors on va dire on est trop critique. Oui, on est trop critique, mais c'était quand même une année cataclysmique au niveau des résultats. Donc nous, on se dit toujours, ça va être compliqué parce que voilà. À l'étranger, ils vous disent, ah mais tous les joueurs que vous avez, vous êtes favoris. Bah oui, ça peut marcher, mais c'est pas souvent comme ça. Sauf que là, pendant le tournoi, l'équipe de France a toujours ces joueurs-là et elle a retrouvé une équipe. Donc là, elle est évidemment doublement dangereuse et favorite du dernier carré. Ça, c'est à peu près indéniable, même si on a vu Didier Deschamps ce soir qui a un peu refusé. Pas qu'il a refusé le statut, mais il a dit voilà, attendez, on va faire les choses en.
Oui, mais là, voilà.
Oui, mais non, mais oui, la pancarte, elle est énorme.
Et j'aurais une dernière question, Maxime, qui aurait pu d'ailleurs faire l'objet d'un quatrième sujet. Est-ce que cette Coupe du Monde est d'ores et déjà réussie pour l'équipe de France? Si tu perds contre le Maroc en demi-finale, même si le Maroc a tapé tout ce qui se fait de mieux, tu te fais taper par le Maroc en demi-finale.
Tu resterais. Alors, une défaite en demi-finale reste une fausse note et un échec, parce que même si on dirait ah, ils sont quand même allés en demi-finale, bah, ça reste une défaite et on aurait toujours des choses à redire.
Perdre face au Maroc, c'est pas perdre face au Brésil. Bah, même oui, si voilà. Encore une fois, le Maroc est incroyable, mais.
Non, mais c'est sûr que, je le répète, comme a dit Didier Deschamps, il dit. Alors, il joue aussi sur les mots, mais il a raison d'une certaine manière. Il dit sur le tournoi, c'est plus une surprise. Ils font ça depuis le début.
Mais il a raison.
Ils prennent pas de but. Mais il est certain qu'une défaite face au Maroc, ça n'aurait pas la même, le même poids, on va dire, dans le bilan qu'une défaite voilà, face à
l'Allemagne en quart finale en 2014. Voilà. C'est... Ouais.
Mais
on a le temps d'en parler quand même.
Méfiance.
Méfiance, effectivement, parce que cette équipe du Maroc surprend et en plus n'est pas qu'un bloc bas. Je veux pas entendre parler de ça. Bon, moi, le Maroc, par exemple, m'a beaucoup plus convaincu, je vais pas revenir, mais que la Croatie.
Non, parce qu'en plus, là, il est tard, il faudrait qu'on aille continuer à écrire et après aller se coucher.
Voilà, on a encore beaucoup de papiers à écrire. Lisez-les d'ailleurs sur eurosport.fr. Merci à Sébastien Petit qui a été exceptionnel une nouvelle fois ce soir aux manettes. Merci
et
à Quentin Guichard. Oui.
Et avec tout ça. Hier, j'avais préparé un truc sur Titanic, sur les Oscars, et Brésil-Croatie l'a flingué, donc je le garde pour la semaine.
Qu'est-ce que c'est là,
Non, mais je revenais sur l'année des Oscars, et j'avais regardé les films qui étaient en face de Titanic.
Ah oui, donc tu préparais l'émission.
Oui.
Ah oui, tu préparais l'émission. Et tu préparais. Non, mais que... Demain, on est obligé de chanter du Céline Dion, tu sais.
Cyril Morin est obligé de chanter du Céline Dion.
Donc demain, dans le FC Stream Team, vous aurez du Céline Dion. On ne sait pas encore quelle
la
chanson.
Belle organe, Cyril, comme Patrick Bruel.
Exactement. Un bien bel organe qu'il vous exposera demain, chers amis auditeurs. Ouvrez bien vos oreilles.
Il a voix de baryton, c'est exceptionnel.
Exceptionnel. Rendez-vous demain pour. On va encore parler de ce France-Angleterre.
Ah, oui.
On parlera encore France plus Maroc, peut-être de France-Maroc. Rendez-vous tous les jours. Rendez-vous. Voilà. Maintenant, on vous amène jusqu'au bout. Hein ? Troisième étoile, Maxime ?
Allez.
Troisième étoile.
On sera là au moins jusqu'à.
C'est vrai.
Putain, jusqu'à la finale. Ouais, ouais,
les vacances.
Au pire, la petite finale.
Les vacances ne font que se repousser, Maxime. Car si la France était éliminée, dimanche, 9h du matin, Maxime était aux Bahamas. Et là,
c'est ça.
Voilà.
Grosse décep.
Range ton maillot de bain, Maxime, ouais. Et remets le bleu de travail demain. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.